Bon, et un jour, comme ça, donc, je prends un livre, tout à fait au hasard, de quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler, qui était Carl Gustav Jung, et où j'ouvre le livre, c'était Métamorphose des symboles de la libido, sa première grande œuvre, si on peut dire. J'ouvre le livre et je tombe sur le chapitre qui exactement me donnait les clés de ce que j'étais en train de vivre. Et où je dois dire que, justement, la sortie de la mélancolie s'est faite à partir de la rencontre de Jung. Et là, j'emprunte l'expression, si on peut dire, à l'un de ceux qui ont été mes grands amis, qui était un des grands analystes jungiens, qui s'appelait Pierre Solier. Il disait, finalement, j'ai découvert Jung par hasard et par nécessité. Par hasard, parce que, précisément, absolument rien ne me guidait. C'était un phénomène purement objectif. Puis, je me rappelle très bien, comme mon doigt avait hésité entre plusieurs livres, il s'était posé sur celui-là, je serais bien incapable de dire pourquoi. Et par nécessité, parce que ça correspondait effectivement à ma nécessité intérieure. Et bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais j'étais tombé sur le chapitre sur la nécessité de l'inceste symbolique, je dis bien symbolique, c'est-à-dire ça renvoie à tout un certain nombre de vieilles religions de la déesse mère, d'une certaine manière, et commence à expliquer un certain nombre de rêves et de choses très profondes que je vivais, qui étaient extraordinairement angoissantes et morcelantes pour moi. C'est-à-dire que tout à coup, ça donnait du sens. Et c'est cela qui est extraordinairement important, je pense, dans ces expériences de synchronicité, c'est que précisément, ce sont deux événements, un état psychique, un événement physique, qui coïncident, mais dans ce qu'on appellera une coïncidence signifiante. Parce que précisément, elle crée du sens dans la personne, et ça, je l'ai vécu, réellement. Et de la même manière que, alors que je commençais à sortir de ma mélancolie, mais j'étais encore un peu, vous savez, dans la mélancolie, on est un peu gouverné par le dieu Saturne, le dieu Chronos des anciens grecs, c'est-à-dire le dieu du ralentissement du temps dans lequel on a l'impression que le temps se gèle et disparaît. Et alors que j'étais justement, bon, je commençais à aller mieux. Ça n'allait quand même pas très bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, fasciné par ce temps qui n'existe pas, d'une certaine manière, j'étais en vacances, mes parents étaient repartis, j'étais tout seul dans ma maison des Pyrénées, et je ne trouve rien de mieux, du coup, de dire, le temps n'existe pas, je vais faire en sorte que, pour moi, le temps n'existe pas. Autrement dit, je me défais de ma montre que je mets au fond d'un tiroir, j'arrête les horloges de la maison, et autant vous dire qu'au bout d'un certain temps, on est dans un état curieux. Et dans cet état curieux, tout à coup, j'ai une vision. Et j'ai une vision, c'est-à-dire que je me vois sur la place du village le lendemain, avec quelqu'un que je ne connais absolument pas, qui vient vers moi, qui me dit, je vois bien que tu ne me reconnais pas. Lorsque nous avions 3 ans, nous étions très amis. Il me donne son nom, effectivement, c'est quelqu'un que j'avais connu des années avant. Et à ce moment-là, il prononce une phrase extrêmement précise. Et c'était tellement réel, c'était tellement vrai, que je reconnais que pratiquement dans les quelques minutes qui ont suivi, enfin je ne pouvais pas chronométrer puisque je n'avais pas de montre, mais dans les quelques minutes qui ont suivi, j'avais ma montre à mon poignet et je dévalais vers la place du village pour regarder l'heure à l'horloge de l'église et remettre toutes les horloges de la maison en marche. Et puis là-dessus, je me suis dit, et alors, qu'est-ce qui va arriver puisque je savais très bien que ça se passait le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Alors, poussé par une profonde curiosité, je me trouve effectivement sur la place que j'avais vue le lendemain et en me disant, mon Dieu, pourvu que je me sois trompé. Parce que là, j'avais l'impression que véritablement, j'étais au bord de la folie, de cette manière. Enfin, quand on est mélancolique, on l'a souvent, cette impression. Et là, j'aperçois la personne que j'avais vue. Je me dis, alors là, ça commence à aller très mal. Et la personne vient vers moi en me disant, je vois que tu ne me reconnais pas. Je suis un ami, nous nous connaissions, nous nous jouions ensemble lorsque nous avions 3 ans, etc. Et là, heureusement, il reste un tout petit peu d'esprit critique. C'est-à-dire, parce que là, je me dis, alors là, vraiment, ça y est, on peut appeler les ambulanciers de l'hôpital psychiatrique. Heureusement, il n'était pas très loin. Mais je lui dis, au moins, je ne dis rien, parce que je peux toujours lui poser une question qui, d'une certaine manière, induira plus ou moins inconsciemment la manière dont il va s'adresser à moi, et qui donc l'inciterait à prononcer la phrase que j'avais entendue dans ma, je sais pas comment dire le mot, oui, dans ma vision, de cette manière. Je ne dis donc rien, et là, je suis obligé d'entendre qu'il prononce exactement cette phrase, effectivement. C'est-à-dire, je suis obligé de me dire, effectivement, la veille, j'avais vu exactement ce qui allait se passer le lendemain. Ce qui est extraordinaire, c'est que je me rappelle, j'avais des amis physiciens à qui j'en avais parlé, qui m'avaient dit « Ah non, ça c'est pas possible, ça ne peut pas exister. » Moi je leur dis que je suis désolé, vous pouvez toujours me dire que ça ne peut pas exister, je l'ai vécu. Donc ça existe, c'est tout.